Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, à la technique, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée au textile, depuis les ateliers de confection jusqu'au grand défilé. Entre créateurs de renom et mode jetable, l'industrie de l'habillement ne cesse de faire parler d'elle, pour le meilleur parfois, pour le pire souvent. Il y a 5 ans, le 24 avril 2013, un immeuble de Dhaka, la capitale du Bangladesh, s'effondrait sur les 5000 employés du textile qui y travaillaient, provoquant l'un des plus grands désastres industriels de l'histoire moderne. En tout, 1135 personnes y trouvèrent la mort. Un drame qui relance la question du devoir des entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants. 5 ans plus tard, les conditions de travail dans ces ateliers de l'autre bout du monde se sont-elles vraiment améliorées ? Comment responsabiliser les firmes alors que le textile est aussi la deuxième industrie la plus polluante au monde ? Et plus largement, y a-t-il une volonté politique de créer un modèle d'entreprise plus éthique ? On en parle avec Naila Jaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, Corinne Verchet-Chaptal, professeure de gestion à l'IUT de Villetaneuse de l'Université Paris 13, et Maïlys Souk, secrétaire générale du Point de contact national français de l'OCDE. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
La veille de l'effondrement, nos patrons nous ont dit de rentrer chez nous parce qu'il y avait une fissure. Le jour même, on avait peur, mais ils nous ont forcés à travailler. À 9h45, l'immeuble s'est mis à vibrer. On a tous paniqué, on était coincés. Quand je me suis réveillée, il y avait 2 cadavres sur ma jambe. Ma mère était morte. Après l'accident, je me suis fait amputer. Maintenant, plus personne ne voudra m'embaucher. Les marques occidentales ne me versent pas d'argent. Il n'y a pas eu non plus de gros changements dans le travail. Les salaires moyens ont augmenté, mais la charge de travail aussi.
Je m'appelle Amirouna Kéamine. Je suis le président de la Fédération nationale des travailleurs du textile. On sait qu'environ 29 marques occidentales se fournissaient au Rana Plaza. 15 ont dit qu'elles allaient contribuer, mais pour l'instant, le fonds d'indemnisation n'atteint que 17 millions.
17 millions sur les 30 millions nécessaires selon l'Organisation internationale du travail, une somme qui a finalement été réunie 2 ans après le drame en 2015. Bonjour Naila Jaltouni, Corinne Verchet-Chaptal et Maïlys Souk.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on vient d'entendre le témoignage particulièrement glaçant de cette ouvrière du Rana Plaza. C'était 1 an après la catastrophe dans un reportage diffusé sur France Inter. Ce drame, pour commencer, a joué un rôle de révélateur. Il a réellement entraîné une prise de conscience mondiale des mauvaises pratiques dans l'industrie textile, Naila Jaltouni.
Oui, il a constitué une prise de conscience citoyenne avant tout. C'est vraiment ce qui a été le moteur finalement des quelques évolutions qu'on a ensuite pu observer à la fois sur le terrain, sur le plan des entreprises et sur le plan politique. Il a été aussi un révélateur d'une face cachée finalement d'un bien de consommation dont on ne connaissait pas effectivement la façon dont il était fabriqué, donc celle de nos vêtements. Beaucoup de consommateurs, de citoyens ont pris conscience du lieu où ces vêtements étaient fabriqués, puis des conditions de travail, bien évidemment, et du sort de ces petites mains du textile, ces hommes et ces femmes, en fait, en très grande majorité, hein, des femmes, et des conditions dans lesquelles elles étaient exploitées dans ces usines.
Corinne Verchet-Chaptal, prise de conscience, ou plutôt nouvelle prise de conscience ?
Oui, enfin, ça a été une prise de conscience de deux choses importantes. La première, ça a quand même mis au grand jour, malheureusement, la face sociale, les dynamiques sociales de toute la restructuration économique de cette industrie, dont on voyait très bien les moteurs et la dynamique économique, mais les conditions sociales étaient quand même peu éclairées. Et puis par ailleurs, ça a quand même aussi pointé la difficulté énorme de régulation que posent ces réseaux transnationaux de production tels qu'ils se développent dans l'industrie textile et de l'habillement.
Maïlys Souk, il y a un avant et un après Rana Plaza ?
Il y a clairement un avant et un après Rana Plaza. C'est d'ailleurs la formule qu'employait la ministre Nicole Bricq lorsque nous lui avons remis le rapport du PCN le 2 décembre 2013. puisque quelques semaines, quelques jours après le drame du Rana Plaza, la ministre avait souhaité saisir le PCN français pour qu'il explique quels étaient les
contacts national français, l'OCDE pour lequel vous travaillez.
Français, voilà, tout à fait, qui est une instance tripartite qui a pour mission de promouvoir les normes internationales de RSE qui existent, j'en parlerai un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Et donc ce PCN a aussi une fonction de traiter des plaintes qu'on appelle des circonstances spécifiques. Et la ministre, au lendemain du drame, a donc saisi le PCN pour qu'on éclaircisse ce qui s'était passé et quelles étaient les relations entre les donneurs d'ordre d'une part et les fournisseurs d'autre part. Donc c'est tout ce travail dont on reparlera plus tard.
On va en parler bien sûr et également de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. Mais d'abord, un premier bilan, peut-être 5 ans après le drame. Toute une série de mesures ont été prises. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les conditions de travail se sont véritablement améliorées, Naila Ajeltouni?
On peut dire qu'elles l'ont été dans l'année qui a suivi le drame et que malheureusement depuis on observe une réelle stagnation. D'abord c'est vrai que le Bangladesh fait partie de ces pays où l'État est en partie défaillant, c'est-à-dire ne joue pas son rôle de protéger les droits fondamentaux des travailleurs sur son sol. C'est aussi un État qui est tourné à 80% pour ses entrées en devises vers l'exportation dans ce secteur textile, donc il est extrêmement dépendant de ses investissements économiques et on voit là la difficulté pour un pouvoir politique aujourd'hui d'assumer ce rôle dans une mondialisation qui place aussi les multinationales à un rôle assez puissant. Donc de haute lutte, je dirais, les travailleurs ont obtenu une augmentation de leur salaire minimum. Il était de 28 euros, si je me souviens bien, à l'époque. Il est passé à 60 désormais. Bon, ça c'est le salaire minimum. Ça demeure un salaire de misère. Hein, sur l'échelle des salaires, ça fait partie de salaire de misère, c'est-à-dire un salaire qui ne permet pas aux travailleurs de vivre correctement, donc d'assumer ses droits fondamentaux, se loger, se nourrir, etc. Et il y a un assouplissement aussi sur les questions de liberté syndicale, mais les travailleurs sont aujourd'hui toujours dans la difficulté de s'organiser pour défendre leurs droits. Là où il y a pas d'évolution encore, c'est sur la prise de conscience, je dirais, politique des multinationales, qu'il faut faire évoluer un modèle économique qui aujourd'hui est trop rentable, parce qu'il est encore fondé sur la minimisation des coûts de production, au premier rang desquels le salaire et cette chaîne d'approvisionnement qu'on a extrêmement de mal pour l'instant à rationaliser, même s'il y a évidemment des évolutions, notamment législatives.
Par ailleurs, un rapport récent indique que la pression sur les coûts et les délais de production n'a fait qu'empirer. Les prix imposés aux fournisseurs sont encore plus bas que ceux qui étaient pratiqués à l'époque du Rana Plaza. Et donc effectivement, la principale responsable, celle qui est pointée du doigt, c'est la mode jetable, la fast fashion. En réalité, rien n'a véritablement changé, Corinne Verchet-Chaptal.
Alors, pas rien qui a véritablement changé, mais en tout cas, il n'y a pas eu de changement systémique au sens où les évolutions qui amènent à la dégradation des conditions de travail ne sont pas remises en question. Vous parliez des ordres d'achat et des pressions au délai, au prix bas, etc. Il y a des études, et ça c'est des ONG qui ont fourni ces éléments, qui établissent un lien direct entre l'augmentation de ces ordres d'achat et des pressions d'ordres d'achat et la dégradation des conditions de travail dans les usines des producteurs du Sud. Le problème, c'est qu'on est dans des réseaux transnationaux où on a des organisations pilotes, des firmes pilotes dans l'habillement, c'est les grandes marques et les distributeurs, qui restent sur des activités immatérielles de conception et de marketing du produit et qui font faire à des sous-traitants dans des pays du Sud. Et là, on a du mal à remonter les chaînes de responsabilité parce qu'en fait, les conditions sociales, les dégradations sociales de ces pratiques économiques s'exercent dans des lieux où il n'y a pas de régulation, en tout cas, de hard law, quoi.
Et les fonds d'indemnisation des victimes ont tardé à voir le jour. Il y a une partie importante des dons qui a constitué ce fonds d'indemnisation qui était anonyme à la demande express des marques qui ont toujours contesté cette responsabilité, Naila Ajeltouni.
Ça, c'est un point crucial que vous soulevez, c'est-à-dire qu'on parlait de prise de conscience. Elle a été, au niveau citoyen, aussi sur la question de la responsabilité des acteurs, l'absence de redevabilité. Or, la question de la redevabilité de nos actes, des impacts, elle est connue pour tous les citoyens. On est responsable. Et il se trouve que les citoyens découvrent aussi que multinationale n'est pas juridiquement responsable des impacts sociaux, environnementaux de son activité. Parce qu'en fait, si on questionne toutes ces entreprises sur les raisons pour lesquelles elles investissent au Bangladesh, Bangladesh ou elle sous-traite au Bangladesh. La seule réponse, c'est parce que le Bangladesh a la main-d'œuvre la moins chère au monde. C'est son seul avantage comparatif, en tout cas à l'époque. Et donc, cette question de la responsabilité, elle est centrale. C'est précisément pas parce qu'il n'y avait pas cette responsabilité juridique, il n'y avait pas d'obligation de compenser, d'indemniser dans le cadre de ce drame. Donc, un fonds d'indemnisation a été rapidement mis en place sous l'égide de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il est neutre, transparent, indépendant. Il n'est pas lié à la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire toutes ont pu y contribuer. Et il nous a fallu malgré tout 2 ans de campagne internationale citoyenne. Hein, tous les mouvements anti-sweatshop que vous avez évoqués, dont le collectif Éthique sur étiquette fait partie, vraiment de pression sur les marques qui refusaient pour que ce fonds soit comblé. Et là, on a un vrai problème juridique.
Et la nouveauté, c'est aussi qu'en 2015, le G7 a annoncé la création d'un fonds mondial de prévention des accidents du travail. Où en est ce fonds aujourd'hui ?
Alors, je n'ai pas de récentes nouvelles sur ce fonds. C'est un sujet important, intéressant. Ce qui est surtout essentiel pour nous, c'est qu'il ne dédouane pas les entreprises de leurs responsabilités et surtout de faire évoluer leurs pratiques d'achat et leurs modèles économiques. L'idée, ce n'est pas tant qu'on ait une possibilité d'indemniser, mais qu'on prévienne les risques. Et c'est tout l'objet du travail que l'on mène pour renforcer la législation.
Alors, il y a tout de même un accord qui a été conclu sur la sécurité des ateliers. Il a été signé sous les auspices de l'Organisation internationale du travail, un accord qui permet à des syndicats de travailleurs du textile d'attaquer en justice des employeurs qui refusent ou qui tardent à prendre des mesures de sécurité dans les usines. C'est une réelle avancée, Maïlys Souk. Est-ce que les syndicats réellement s'emparent de cette possibilité ?
Oui, tout à fait. Ce qui est important de dire, le travail qu'on a produit au PCN français suite au drame du Rana Plaza a permis aussi d'embrayer sur tout un tas de mesures dont on n'a pas encore parlé, puisque l'importance de ce travail, ça a été aussi de montrer que d'après les standards internationaux de RSE, les entreprises ont une responsabilité dans leur chaîne d'approvisionnement. Et le fait de le reconnaître, de l'expliquer, était quelque chose d'important et de nouveau, et il était important qu'une instance autonome mais publique le dise. Et donc le travail du PCN français a été reconnu à ce niveau-là parce qu'il a permis d'expliquer à tous et en partie aux donneurs d'ordre, aux entreprises, que oui, elles avaient une responsabilité à travers toute leur chaîne d'approvisionnement et pas seulement au niveau du rang 1. Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter. Et
sur
au Bangladesh, il y a eu de nombreuses mesures prises, notamment le fameux Bangladesh Accord qui a permis d'une part l'aspect de questionner les responsabilités, mais qui a surtout permis de mettre en commun tous les fournisseurs des donneurs d'ordre qui s'attelaient, qui rentraient dans l'accord. Ça a été une mobilisation inédite des donneurs d'ordre, de leurs fournisseurs, des syndicats internationaux, c'est très important, des ONG, pour mettre en place un dispositif transparent pour améliorer les conditions de sécurité. Donc au Bangladesh, les conditions de sécurité dans ces ateliers-là ont été améliorer, mais on a encore beaucoup de pain sur la planche, comme Naila le disait, sur les questions de droit du travail, on pourra en reparler.
Oui, puis cet accord venait à échéance le 1er mai 2018, et il y a un nouveau texte de transition qui a été validé, mais désormais l'accord sera placé sous l'égide du Bangladesh, c'est ça ? Quel problème est-ce que ça pose, Naila Jaltouni ?
En fait, l'origine de cet accord, c'est bien une alliance syndicats et ONG hein, qui ont proposé, internationaux, qui ont proposé à la communauté internationale, notamment à l'OIT, puis au multinationale qui l'avait rejeté quelques mois avant le Rana Plaza. Nous étions en première ligne pour aller proposer cet accord et les multinationales n'en voulaient pas. C'est-à-dire ce système était trop contraignant. Il a fallu ce drame pour que, de fait, elles s'engagent à signer cet accord qui a ce niveau de contrainte et qui les obligeait pendant 5 ans, effectivement, à sécuriser leurs usines sous peine, en effet, de pouvoir être adieu devant les tribunaux, ce qui s'est passé avec un système d'intermédiation entre-temps. Pour que cet accord, l'idée, c'est pas qu'il soit à vie, c'est qu'on n'ait plus besoin en fait d'accords privés d'abord, mais plutôt une régulation publique. Il a fallu quand même 3 années supplémentaires parce que l'ensemble des usines ne sont pas sécurisées. Il y a des retards notamment pris par certaines multinationales pour réaliser des travaux et ça laisse le temps au Bangladesh d'organiser une structure autour d'une inspection du travail et aussi de la liberté, enfin des questions de liberté syndicale pour prendre le relais de cet accord et en tant qu'État assumer son rôle de garant de la sécurité. Mais pour l'instant, l'État du Bangladesh n'est pas prêt. Donc c'est important que pendant 3 années, les syndicats internationaux, les ONG internationales soient encore impliqués dans cet accord.
Sur cet accord, toujours Corinne Vergé-Chaptal, et peut-être sur le fait que les conditions sociales dégradées dans les pays du Sud servent parfois de justification à la dégradation des conditions de travail dans les pays occidentaux. Donc on a le sentiment d'un cercle vicieux.
Oui, parce que en réalité, il y a une forme de report de la pression à la rentabilité et qui s'opère d'une certaine manière de la sphère actionnariale sur les grands groupes et des grands groupes dans les divers échelons de leur chaîne de valeur. Donc le grand groupe aussi dans les pays du Nord lui-même connaît des pressions à une rentabilité extrêmement forte et forcément les conditions de travail se dégradent. La différence c'est qu'on est dans des zones, des territoires qui sont régulés avec une histoire, un droit du travail la plupart du temps. En tout cas, en Europe. Donc, il y a des formes de régulation. Quand ça s'opère dans des pays où il n'y a pas de législation ou bien qu'elle n'est pas respectée, à ce moment-là, les dégradations vont bien plus loin, vont dans la violation des droits de l'homme au travail, quoi.
Le mouvement visant à lutter contre les abus de l'industrie textile a pris de l'ampleur dès les années 90.
Après avoir visité 47 villes en 50 jours, je m'ai envolé pour Portland, Oregon. Mon dernier arrêt est le siège de Nike, le plus grand fabricant de chaussures au monde. Dans mon livre, j'ai élu Phil Knight, son président, mon escroc préféré. Nike fabrique ses chaussures en Indonésie en faisant travailler des adolescentes payées 40 centimes de l'heure. L'entreprise a l'appui militaire du régime indonésien qui est à l'origine du génocide dans l'Est Timor. Rien n'est fabriqué aux USA. Je découvrais à Portland une population révoltée contre la situation.
Extrait du film The Big One de Michael Moore, sorti en 1997. Ça fait longtemps que l'industrie textile est dans le viseur des collectifs anti-sweatshop, comme on les appelle, Corinne Vergé-Chaptal. Et d'abord, qui sont-ils ?
Alors, on a pu les qualifier de nouveaux mouvements sociaux dans le sens où ils émergent dans les années 90 aux États-Unis et en Europe du Nord, au Canada. Et c'est vrai que la nouveauté, c'est qu'ils sont composés de collectifs très hétérogènes. Donc, ça peut être des mouvements étudiants, des associations de défense des consommateurs, des femmes, puisque les maillons très intensifs en main-d'œuvre féminine dans ces chaînes globales de valeur. Donc, on a une diversité d'organisations qui vont adopter un fonctionnement, elles aussi en réseau. Et ce qui va leur permettre d'agir avec des campagnes de dénonciation qui, malgré leurs faibles ressources, vont avoir un gros impact médiatique parce qu'ils ont une organisation qui, finalement, colle assez bien à l'organisation du système qu'ils entendent réguler. Donc, ils émergent dans les années 90 et depuis, ça ne cesse de se structurer. Alors, avec des différences, mais Naïla nous en parlera mieux, des différences selon les régions, parce qu'il y a des dimensions socio-institutionnelles qui font que ça se développe pas de la même manière aux États-Unis, au Canada et en Europe.
Mais alors justement, Naïla Al-Jatouni, votre association Éthique sur l'étiquette est née en 1995 pour lutter contre ces mêmes abus. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle s'est constituée d'abord et quel est son mode d'action aujourd'hui ?
Alors, la composante, enfin, l'élément central, c'est que c'est un collectif d'organisation de la société civile. Il en rassemble une vingtaine aujourd'hui. Et dès le départ, il a rassemblé syndicats, ONG, associations de défense des consommateurs. Vous avez le CCFD Terre Solidaire, Oxfam France, Artisans du Monde, la CFDT, voilà, Solidaire, un tas d'organisations qui, en fait, au début, en 95, à l'origine, ont créé une campagne d'opinion qui visait, en fait, à mobiliser les consommateurs français, à les sensibiliser la façon dont nos vêtements étaient produits. Et ça a été le premier collectif aussi à interpeller directement l'acteur économique mondialisé. Et pas uniquement le régulateur, comme on fait souvent dans nos organisations. Et en mobilisant les premiers intéressés, c'est-à-dire leurs propres acheteurs, leurs consommateurs. Et cette campagne d'opinion a eu un impact assez retentissant en 1995. Elles ont décidé de pérenniser leur action au sein d'un collectif. Et elles se sont rapidement rattachées en effet à un réseau européen qui est désormais mondiale, qui s'appelle The Clean Clothes Campaign, qui est effectivement le pendant européen de ces mouvements anti-sweatshop aux États-Unis et qui ont en fait été beaucoup renforcés avec ce scandale Nike. Il a été vraiment aussi un point de départ de ces actions de campagne et des premières propositions de responsabilité sociale des entreprises qui étaient volontaires. dont on s'est bien rendu compte après quelques années qu'elles étaient insuffisantes et qu'il fallait qu'elles deviennent obligatoires, encadrées par les États.
D'où l'idée de ne pas simplement condamner, mais aussi de proposer des outils aux entreprises pour améliorer l'encadrement de leur chaîne de production là où c'est nécessaire, Maïlys Souk.
Oui, surtout, je voulais revenir pour continuer un peu dans l'historique. Au lendemain du Rana Plaza, la France et le PCN français, on a demandé à l'OCDE d'engager un travail, pas seulement au niveau du PCN français, mais de tous les PCN et au niveau du groupe de travail de l'OCDE sur la RSE, pour aboutir à un guide de l'OCDE sur les normes sociétales, environnementales dans la filière textile-habillement mondiale. Ce travail a abouti en 2017. On a maintenant une norme internationale sur la diligence raisonnable dans la filière textile-habillement mondiale. Donc ça explique, en bref, qu'il y a bien un lien entre le donneur d'ordre et tout le reste de la chaîne et qui donne des indications très claires sur le respect des standards par rapport aux risques des travailleurs, le harcèlement sexuel, les questions environnementales, les questions de l'eau, tous ces éléments-là. Et à côté de ce guide, on a continué à pousser pour mettre en place un forum mondial sur les chaînes d'approvisionnement textile et habillement qui se réunit chaque année à l'OCDE et qui permet de réunir à la fois le monde syndical, la société civile dans toute sa diversité française, européenne et des pays de sourcing, ainsi que les donneurs d'ordre et les associations de producteurs des pays de sourcing. Et ces rencontres sont très importantes parce que ça veut dire que pendant 2 jours, à l'OCDE, on discute des problèmes de la filière. Et ça, c'est fondamental parce qu'on a besoin de lieux de dialogue pour que les acteurs puissent agir ensemble. On est face à des dysfonctionnements systémiques, Naïla l'a très très bien souligné. Et on voit bien qu'une entreprise seule, une ONG seule, un syndicat seul ne pourront pas tout changer. Et il faut cette coalition d'acteurs qu'on essaie et on obtient certains résultats, même si il faut aller plus loin.
Ce travail de conseil dont vous parlez, Maïlys Souk, il est évidemment essentiel. Mais en même temps, ce qu'on voit bien et ce qui fonctionne, c'est vraiment quand il y a une avancée législative. Et en réalité, ce qui s'est passé en France, c'est que la catastrophe du Rana Plaza a mené à l'adoption en 2017 d'une loi sur le devoir de vigilance. Elle impose aux entreprises employant au moins 5 000 salariés en France et 10 000 dans le monde de veiller à la sécurité et au respect des droits humains de leurs travailleurs, y compris auprès de leurs sous-traitants. La France, Corinne Ferchet-Chaptal, est pionnière en la matière. Cette loi, ça a été une réelle avancée.
Alors, dans l'esprit, oui. Dans sa portée, on va voir. Et puis elle est le fruit d'un compromis politique aussi. Donc les ambitions de départ n'ont pas toutes, ne se retrouvent pas toutes dans la loi. Des concessions et des compromis ont dû être faits par les différents acteurs. Néanmoins, ce qui me semble extrêmement important, c'est que là où l'action de certaines organisations internationales et des ONG avait consisté à établir ce lien entre les pratiques des donneurs d'ordre et les conditions de travail dégradées au Sud, il leur manquait quand même un outil juridique d'imputation de la responsabilité à l'acteur fort de la filière. Avec cette loi, les normes apports qu'elle fait, et j'en discute avec des collègues juristes, c'est qu'elle se fonde sur la reconnaissance d'un rapport de pouvoir et d'un rapport de dépendance entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et c'est la première, voilà. Et elle s'appuie sur la mise au jour de ce rapport de dépendance pour attribuer un devoir de vigilance et une responsabilité. Donc ça, c'est une avancée énorme.
Les grandes entreprises sont désormais obligées de mettre en place des politiques préventives sur l'ensemble de leur chaîne de production et une sanction financière donc est prévue en cas de non-respect de ces obligations. C'est la grande nouveauté, Naïla Al-Jatouni.
En fait, la grande nouveauté, c'est donc effectivement cette question de la responsabilité et surtout que l'on sort de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire le non-contraignant et le volontaire. C'est ça la grande révolution. Elle est pionnière dans l'esprit, c'est vrai, mais aussi en droit. C'est-à-dire qu'on a créé pour la première fois au monde du droit dur, donc défendable devant les tribunaux, bien entendu, pour des dommages commis en dehors du territoire national par un acteur économique lui-même mondialisé. Aujourd'hui, donc, les entreprises, ce sont des groupes de sociétés avec des chaînes d'approvisionnement, des constructions extrêmement complexes en filiales, etc. Et cet objet économique mondialisé n'était pas appréhendé par le droit. Donc la question de la responsabilité était difficilement, en effet, imputable. Et c'est ça la grande révolution de cette loi. Et il se trouve en effet effet qu'elle est pionnière et que d'autres pays européens ont embrayé le pas de la France. L'autre élément central, c'est précisément celle de la prévention. Il y a désormais une sanction, mais ça n'est pas une loi qui a été... Donc, on y a travaillé 4-5 ans avec des juristes, des députés extrêmement engagés, au niveau européen également, des experts, ONG, syndicats, etc. Et l'idée pour nous, c'était pas tant qu'on puisse punir, c'est que l'on puisse prévenir les risques. Et la prévention des risques, elle ne s'obtient que en introduisant une sanction, c'est-à-dire en créant une brèche dans l'impunité dont bénéficient finalement aujourd'hui ces acteurs qui sont pourtant potentiellement, qui ont potentiellement l'impact le plus négatif sur les droits fondamentaux des individus, des citoyens et l'environnement.
Et alors justement, qu'est-ce que cette loi a permis pour le moment ? Est-ce que les grandes entreprises ont pris le problème à bras le corps ? Alors ça fait qu'un an et demi, c'est peut-être un petit peu tôt pour en faire le bilan.
C'est d'autant plus tôt que donc l'obligation, c'est qu'elle publie dans un premier temps un plan de vigilance. Et ce plan devait être publié là au cours lors des dernières assemblées générales. Donc il y a 2-3 mois. C'est encore récent. Alors, plusieurs dizaines d'entreprises, on a à peu près 200 entreprises multinationales qui sont concernées. C'est une liste d'ailleurs qu'on n'a jamais réussi à obtenir, bien malheureusement, du gouvernement français pour nous dire quelles entreprises sont ciblées par cette loi. Ce serait extrêmement, comme contrôle citoyen démocratique, qu'on puisse avoir accès à ce type de liste. Donc, nous, on doit faire ce travail de vigie, je dirais. Donc, plusieurs dizaines d'organisations de multinationales ont publié ce plan. Elles doivent y détailler les risques sociaux et environnementaux que peut causer leur activité partout où elles opèrent. Donc, dans le pétrole, dans l'extraction, on n'a pas les mêmes risques que dans, effectivement, le textile ou le secteur bancaire. Donc, elles doivent les dire. Ça veut dire qu'elles doivent avoir cartographié non seulement les risques, mais leur activité. Où est-ce qu'elles produisent, dans quelles conditions.
Et ça, elles ont commencé à le faire.
C'est le début. Et elles doivent surtout mettre en place les mesures qu'elles comptent prendre pour prévenir ces risques et le suivi qu'elles vont en faire. On a une grosse déception sur la première publication de ces plans, qui sont extrêmement sommaires pour le moment, mais on comprend aussi qu'il faille du temps pour les élaborer, donc évidemment qu'on va, on espère avec les pouvoirs publics, suivre et faire en sorte que les multinationales prennent au sérieux ce type d'obligation.
Corinne Vergé-Chaptal, est-ce que le problème, c'est pas que la loi crée une obligation de moyens et non une obligation de résultats ?
Oui, probablement. Alors après, c'est vrai qu'une autre, je reviens sur les innovations quand même, ce qui peut être intéressant aussi dans cette loi, puis je répondrai à votre question, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est une loi qui hybride de la soft law et de la hard law, parce qu'elle impose un devoir de vigilance, mais elle laisse l'entreprise établir son propre plan. Alors, et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs peut-être un peu déçus de ce qu'il contient.
Et sur cette obligation de moyens et non de résultats.
Alors oui, bien sûr que c'est une obligation de moyens et pas de résultats, parce que justement on n'est pas dans des obligations juridiques extrêmement strictes sur les résultats atteints. Maintenant, elle va quand même un peu plus loin de ce qui était le dispositif RSE classique dans l'industrie de l'habillement, qui est le code de conduite. Qui lui faisait fi de tout rapport de dépendance au sein de ses réseaux et de fait a mené à des situations paradoxales où on demandait à des sous-traitants de respecter des codes de conduite de plus en plus exigeants sur lesquels l'entreprise donneur d'ordre s'appuyait pour communiquer à la société civile et en même temps de faire face à des conditions économiques de plus en plus dures. Donc on avait un paradoxe très fort. Donc c'est un pas en avant en reconnaissant ce rapport de dépendance. Maintenant on est sur une obligation de moyens, pas de résultat.
Je suis d'accord. Oui, sur obligation moyen résultat, finalement, je dirais la sanction va venir du juge. Ça, c'est la troisième partie. Enfin, l'autre élément de la loi, c'est que en cas de non-publication, de non-complétude, de non-mise en œuvre du plan, nous allons pouvoir saisir un juge qui pourra mettre en demeure la multinationale de publier ce plan, de le respecter. Et puis en cas de dommage, ce qui est évidemment tout ce que l'on cherche à éviter avec cette loi, en cas d'atteinte, on pourra engager une procédure devant le juge qui va vérifier si cette atteinte aux droits fondamentaux à l'environnement est causée par un manquement à cette obligation de vigilance inscrite dans la loi.
Maïlys Souk, simplement, et aussi sur cette nécessité de généraliser ce devoir de vigilance au niveau international. Il y a une première version d'un traité international contraignant les multinationales à respecter les droits humains qui doit être discuté le mois prochain au siège de l'ONU à Genève. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Je voulais revenir sur l'importance des PCN et les fameux principes directeurs de l'OCDE, parce qu'en fait, d'un point de vue du PCN français, ce qui est très intéressant avec la loi sur le devoir de vigilance, c'est qu'elle est la première à légiférer la norme internationale de RSE. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une norme, parce que la loi, elle est très brève, elle fait quelques articles. Mais pour comprendre concrètement comment déployer toute la diligence raisonnable que Naila vous a présentée, il va falloir se reporter à tous les textes qui expliquent comment faire, que nous travaillons, que nous élaborons à l'OCDE avec les autres PCN et les parties prenantes internationales. Donc cette loi, elle va renvoyer pour sa mise en œuvre effective, puisqu'il y a d'ailleurs bien ce vocabulaire dans la loi, la mise en œuvre du plan de manière effective, ça va renvoyer aux travaux sur l'approvisionnement en minerais responsables pour éviter de financer des conflits, ça va renvoyer aux travaux sur la responsabilité du secteur financier, ça va renvoyer aux travaux qu'on a menés à l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement agricole responsables, sur le textile et d'autres éléments. Donc c'est un élément qui est très fort parce que ça donne des outils pour arriver à mettre en place la responsabilité. Et il y a aussi des éléments dont on parle très peu, mais qui sont d'autres actions qui sont menées en Inde, en Chine, au Bangladesh, dans les pays de sourcing, par l'OCDE, par l'OIT, pour faire en sorte que sur le terrain, à l'autre bout de la chaîne, on arrive aussi à créer des dialogues et à rappeler que les normes internationales de l'OIT sont des droits fondamentaux des travailleurs qui s'appliquent, même si la loi locale ne le prévoit pas. Donc on a une dimension de la légitimité et de la responsabilité des États qui est aussi très intéressante à prendre en considération.
Naila Jaltouni, sur cette possibilité de généraliser ce devoir de vigilance au niveau international, c'est 134 pays en voie de développement dans le monde qui demandent à ce que la loi française devienne un traité onusien.
Oui, tout à fait. L'échelon intéressant, il est à minima européen et surtout international. C'est-à-dire que cette question de la responsabilité de l'entreprise elle-même mondialisée puisse être envisagée d'un point de vue global. Alors les travaux sur ce traité onusien que vous évoquez, ils ont débuté en effet en juin 2014 après une résolution portée par l'Équateur à laquelle s'étaient opposés les principaux pays occidentaux qui hébergent les plus grandes multinationales. Mais effectivement, ce groupe de travail a pu commencer. Il y a eu 3 sessions. Il y en a une prochaine en octobre. Elle est importante parce que le groupe de travail a publié un premier projet de traité. Alors c'était un projet. Il y a de nombreux éléments dedans. Nous-mêmes allons faire des recommandations et alimenter ce qui sera intéressant pour nous, c'est toujours la question de la prévention, de la responsabilité juridique, encore une fois, qu'on puisse saisir et faire appliquer devant une instance juridique qui reste à définir et que effectivement l'impunité soit finalement mise à mal au niveau global. On attend surtout que le rôle central de la France et de l'Union européenne pour alimenter et ne pas entraver ces travaux, jusqu'à présent leur soutien était assez limité au niveau de l'Union européenne.
La Commission européenne qui a adopté une communication dès 2014 sur le sujet et le Parlement européen une résolution en avril 2017, mais pour l'instant aucun texte contraignant n'a encore été proposé en la matière. Corinne Vercher-Chaptal, et en l'occurrence les pays européens s'étaient opposés, comme le disait Naila Jaltouni. On en est encore loin d'un texte contraignant au niveau européen.
Oui, et c'est vrai que c'était souligné, la France a été assez timide dans le soutien de ce texte-là. Et quand on voit un petit peu... Alors, moi, j'étais pas à l'intérieur, le collectif sur étiquette davantage, tout le cheminement de la loi au Parlement et combien ça a été des batailles et l'histoire de cette loi est extrêmement intéressante et comment ce texte a été, c'est une des premières lois qui a quand même été établie avec des partenariats entre les ONG, les hommes politiques, bien sûr, et des experts académiques. Et il y a eu un vrai, donc on voit bien qu'il y a des réticences extrêmement fortes et qu'on est encore loin de ça au niveau européen. They seek him here, they seek him there, his clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is.
flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Dedicated Follower of Fashion des Kings. On est toujours avec Naila Ajaltouni, Corinne Verchet-Chaptal et Maïlys Souk pour parler d'éthique dans le dressing. On a parlé des conséquences sociales dans le détail, mais il faut également aborder les impacts environnementaux de l'industrie de la mode. C'est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole.
Un jean parcourt 65 000 km avant d'arriver dans notre boutique. Tout ça, ça consomme bien entendu de l'énergie, ça produit des gaz à effet de serre, ça produit aussi des particules de pollution atmosphérique, notamment dans le cas du transport par voie maritime. Le fuel de propulsion des navires est généralement de mauvaise qualité. Donc c'est tout un cycle qu'on ignore puisque l'étiquette ne nous permet pas d'avoir la mesure du gigantisme et de la mondialisation du produit qu'on a entre les mains.
Voilà Charlotte Nittard de l'association Allez Robin des Bois, extrait d'un reportage intitulé « Mondialisation, le tour du monde d'un jean » de Yann Arthus Bertrand. On ignore trop souvent, Naila Ajaltouni, qu'il s'agit d'une industrie extrêmement polluante.
Oui, elle est extrêmement polluante à plusieurs niveaux. Alors là, on est moins sur au niveau de l'échelon de la confection, qui n'est pas l'échelon le plus polluant, mais c'est plutôt les échelons en aval et en amont. Et ça part de la culture, de la fibre, et notamment du coton, dont on sait qu'elle est la fibre qui est la plus gourmande en eau et en pesticides, donc avec un impact en carbone et en pollution très, très important. Il y a ensuite la question de la teinture. Aujourd'hui, les teintures sont encore faites de manière très chimique et dans des pays dans lesquels il n'y a pas effectivement d'encadrement, et donc au niveau de la filtration, etc. C'est le cas au Bangladesh, en Chine. On a en tête les images des rivières bleues polluées avec des conséquences évidemment sociales et environnementales. Donc c'est une industrie extrêmement polluante. Elle l'est doublement parce que l'essor de cette fast fashion que vous avez évoqué en début d'émission, c'est-à-dire une mode à très bas coût et jetable, c'est-à-dire qu'on achète avec une obsolescence programmée dont on sait qu'elle va durer uniquement quelques semaines, est une source de pollution parce que contrairement aux idées reçues, on ne recycle aujourd'hui que 10 à 15% des textiles dans le monde. Ça veut dire 80, 85, 90% qui n'est pas, on n'a pas les capacités de les recycler. Et malheureusement, on a tendance à se dédouaner d'acheter beaucoup en pensant que l'on peut de toute façon soit donner, soit recycler. Or, la fin de vie du produit, c'est encore pas du tout réglé.
Oui, les enseignes brûlent encore trop souvent leur stock, Maïlys Souk, car tout simplement, ça coûte moins cher que de les recycler.
Oui, sans doute. Je voulais insister sur ce que vient de dire Naila, qui est très important. Lorsqu'on a préparé notre rapport Rana Plaza en 2013, on a mis justement le doigt sur ces questions environnementales en expliquant que les fameux audits sociaux, j'emploie des guillemets, je ne veux pas discuter de l'audit, mais on avait constaté que ces audits, d'abord, ne prenaient pas en compte les questions de sécurité, on en a parlé tout à l'heure, mais ne prenaient pas du tout en compte, ou très peu, les enjeux environnementaux. Or, dans la filière textile, l'enjeu environnemental, il vaut pour la planète, donc également pour les riverains qui boivent l'eau polluée, mais également pour les travailleurs, qui sont directement malades, et puis ensuite pour le consommateur, avec le risque, les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on a pu développer à l'époque. Et on en a fait une recommandation de dire que dans la chaîne, il fallait prendre en compte les questions environnementales. Et depuis, il y a eu des changements techniques qui consistent à mettre en place des nouveaux audits environnementaux dans la chaîne d'approvisionnement textile. C'est un aspect technique, mais ça montre une prise de conscience. Et dès lors que le donneur d'ordre va se préoccuper de cet audit environnemental, il va devoir tirer les conséquences, soit sur son process ou sur la construction du bâtiment. Ça, c'est un élément qui est très important. Et l'autre, c'est que j'ai connaissance de plusieurs donneurs d'ordre qui sont en train de déployer des projets, notamment, je pense à plusieurs donneurs d'ordre au Maroc, qui s'associent avec leurs partenaires, les fournisseurs locaux, pour repenser le fonctionnement des usines. Et on sait bien, en tout cas nous, dans nos manières d'aborder les choses dans les PCN, que quand on commence par l'environnement, le social est souvent derrière. Parce que dès lors qu'on va s'enquérir de ne pas mettre en danger la santé des travailleurs, ben les conditions de travail, le dialogue, l'information, les choses vont s'enchaîner. Donc il y a encore beaucoup à faire et je vous confirme que c'est l'industrie la deuxième plus polluante. Et c'est quelque chose qui commence aussi à impacter les consommateurs, qui commencent à prendre conscience. Et
l'ONG, ça, c'est fondamental. L'ONG Greenpeace a souligné le mois dernier les progrès indéniables, je cite, de plusieurs grandes marques de vêtements en matière d'usage de substances chimiques. Je rappelle que jusqu'à 20% donc, de la pollution des eaux serait imputable aux différents traitements des tissus. Donc on voit que c'est une lutte qui avance, Naila Jaltouni.
C'est une lutte qui avance sur ce plan indéniablement et c'est l'action de la société civile, très précisément des rapports donnés de la dénonciation et la proposition de la société civile qui doit bien devenir une experte aussi de sujets qui, je le souligne à la base, ne font pas forcément partie de son champ d'action. Et puis la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que les grandes marques n'ont plus seulement besoin des ONG, elles comptent désormais sur leurs consommateurs pour les interpeller. Ce à quoi on est extrêmement vigilant, c'est ce qui se passe beaucoup, c'est qu'on voit que les multinationales, je disais tout à l'heure, le modèle économique n'évolue pas. Il faut que l'on cesse de produire à extrêmement bas coût en de telles quantités, même si le modèle est rentable, et elles s'engagent en général dans des mesures qui vont avoir un retour sur investissement, que ce soit économique ou en termes d'image. Or, ça donne une bonne image de pouvoir dire qu'on a recyclé, qu'on a ce qui n'évolue pas du tout, mais je sais que par exemple H&M est bien noté, comme d'autres entreprises, sur la question du dernier rapport de Greenpeace, sur la question des salaires de misère, de la liberté syndicale, on est encore malheureusement au degré zéro, on en est encore à la fameuse politique des petits pas, qui ne fonctionne pas et qui risque de devenir des pas invisibles, parce qu'elle a commencé il y a 10 ans.
Tous ces efforts de recyclage, vous citiez H&M qui effectivement H&M incarne cette mode jetable dont vous parliez et qui invite ses clients à rapporter leurs vieux vêtements pour les recycler en échange d'un bon d'achat. Donc on voit que les enseignes ont de plus en plus à cœur de présenter au moins une image plus verte. Mais alors justement, comment est-ce qu'on lutte contre ce qui peut ressembler à du social washing ou du green washing, c'est-à-dire des efforts de façade en faveur des droits sociaux et environnementaux, Corinne Verchet-Chaptal?
Ben probablement en allant vers des modes de régulation qui dépassent un petit peu les initiatives volontaires sous des formes de codes de conduite qui sont encore ou de normes qui sont ou de codes, en tout cas de codes privés qui consistent finalement pour les multinationales, alors seules ou dans des collectifs multi-acteurs, des initiatives multi-parties prenantes, à édicter elles-mêmes leurs standards, donc en choisissant si elles veulent être dans l'environnement, dans le social, et finalement la finalité, c'est une logique, et juste une logique de compliance, c'est-à-dire pouvoir communiquer sur le fait qu'on est OK avec les normes qu'on a soi-même édictées, et effectivement choisir les fournisseurs et arrêter les commandes auprès des sous-traitants qui n'ont pas respecté les audits. Et ça, effectivement, ça nourrit une politique en partie. En partie, ça a permis aussi des avancements, mais ça nourrit en partie une politique de social washing ou green washing, parce que ça nourrit de la communication, beaucoup.
Maïli Souk.
Oui, tout à fait, c'est un point qui est technique, mais qui est fondamental, parce que beaucoup de donneurs d'ordre font des centaines, des milliers d'audits. La question est très importante, parce qu'en fait, le besoin d'avoir une norme internationale, c'est justement pour qu'on parle tous de la même chose. Et dans le fameux standard international sur le textile qu'on a adopté à l'OCDE, on a 3 chapitres sur les risques liés à l'environnement. Les produits chimiques dangereux, la question de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre. Et l'OCDE est allé un cran plus loin en calquant un outil qui a été développé pour les minerais de conflit, qui s'appelle un outil d'alignement des initiatives industrielles collectives. J'explique. Pour un donneur d'ordre, c'est compliqué de faire l'audit lui-même de tous ses fournisseurs. Et puis, il sait que d'autres donneurs d'ordre ont les mêmes fournisseurs. Donc, ils se mettent ensemble, ils rejoignent une initiative collective qui va se charger de ces audits. Or, qui va vous dire si cette initiative collective fait une évaluation par rapport aux standards reconnus, internationalement reconnus? Eh bien, c'est l'OCDE, parce qu'elle a développé ce nouvel outil. Et on a trois initiatives qui se sont engagées à passer dans cette espèce de tamis, on pourrait dire, qui reprend les droits des travailleurs, le harcèlement au travail, les gaz à effet de serre, etc. Il y a une douzaine de colonnes, et qui prend toute la méthodologie de la diligence raisonnable. Est-ce que vous identifiez les risques? Est-ce que vous les cartographiez? Est-ce que vous prenez des mesures de prévention, etc.? Est-ce que vous rendez compte, etc., etc.? Et qui va rendre un rapport qui sera public pour dire, ben, cette initiative, sur tel point, elle est partiellement alignée, complètement pas du tout. Et les trois premières initiatives qui se sont lancées dans ce tamis, c'est la SIC, c'est une grande initiative collective du textile, l'initiative néerlandaise du textile, le Dutch Covenant, et le partenariat allemand pour le textile. Donc on a des outils, c'est un début, on espère que ça va porter des résultats pour la transparence et pour avoir le même standard partout.
Ça, c'est fondamental. Oui, enfin moi je dois dire que pour moi c'est pas une question d'outils, c'est-à-dire que les normes de l'OCDE elles préexistaient, les entreprises s'étaient déjà organisées pour mutualiser leurs audits et elles se sont toujours cachées derrière le fait qu'elles ne savent pas définir ce qu'est un salaire vital. Donc on maintient un salaire minimum qui est un salaire de misère. On ne sait pas remonter la chaîne d'approvisionnement. Je pense que l'excuse presque technicienne, elle est une excuse fréquente des multinationales pour simplement ne pas revoir leur modèle économique. Donc moi je rejette des mais l'idée qu'elles aient besoin d'outils, on en a des tonnes, on ne sait plus qu'en faire. Ce qui manque, et on voit bien ce qui les fait réagir, c'est deux choses. Ce sont les drames socio-environnementaux ou la législation. Le devoir de vigilance et le Rana Plaza sont extrêmement corrélés. Ça faisait des années que les ONG travaillent à cette question de la responsabilité multinationale. Et derrière le social washing, derrière le greenwashing, il y a cette question de l'absence de normes contraignantes. Donc, qu'il y ait des guidelines, des mesures qu'elles s'organisent entre elles, n'est pas inintéressant. Mais ça fait 20 ans, 30 ans que la RSE a émergé. Il faut désormais en passer à de la contrainte et un changement de modèle économique. C'est parce que c'est trop rentable aujourd'hui d'investir dans le marketing, dans la communication, comme le font Nike et Adidas, de faire une pression sur les coûts, les délais de production pour vendre en volume, comme le font les entreprises de la fast fashion, Primark, H&M, Zara, etc., que tout cela n'évolue pas.
Corinne Vergé-Chaptal.
Oui, parce que rappelons quand même que dans Rana Plaza, hein, le nombre de marques impliquées qui avaient des codes de conduite, toutes avaient pratiquement des codes de conduite. Par contre, ce qui est intéressant dans l'extrait qui est passé en début d'émission, c'est qu'il est indiqué qu'il y avait une ouvrière qui, la veille, avait dit « attention, il y a des fissures dans le bâtiment ». Typiquement, avec la loi sur le devoir de vigilance, ce genre de choses permettrait après, juridiquement, selon comment le juge le traite, mais typiquement, c'est ça qui peut permettre d'engager la responsabilité sociale de la firme donneur d'ordre.
Et est-ce qu'en cela, on peut dire que le textile, l'industrie textile, a eu un rôle primordial dans la mise en lumière de cette responsabilisation des entreprises et dans cette RSE qui a émergé, vous le disiez, il y a 20 ou 30 ans, comme Gershé Chaptal?
Oui, parce que je pense vraiment, on présente la RSE et nous-mêmes, la plupart dans nos cours, comme initiative volontaire des entreprises, et spontanée, en réalité, c'est parce qu'il y a eu des collectifs, un mouvement anti-sweatshop, et parce que les entreprises ont été attaquées sur leur marque, qui là où elles créent de la valeur, qu'elles ont répondu et qu'elles ont développé ce champ qu'on a appelé la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc tout ça, et je pense qu'en France, Éthique sur l'étiquette a été le premier collectif qui a fait qu'on a parlé de RSE en France, parce qu'ils sont allés interpeller les grands distributeurs, Carrefour, etc.
Naila, oui, sur ce sujet, c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est que finalement, le secteur textile a été un point d'appui pour une régulation plus vaste, plus large, finalement. La loi de valeur de vigilance, elle ne s'applique pas qu'aux entreprises du textile, mais à l'ensemble des groupes multinationaux. Et c'est pour ça qu'elle est l'action concertée d'ONG et de syndicats, parce que ce que le Rana Plaza met en lumière, c'est les impacts qui touchent tous les citoyens d'une mondialisation dérégulée, ultra-capitaliste, dans laquelle on n'a pas considéré qu'il fallait imposer à l'acteur économique mondialisé imposer des normes et des règles que l'on impose pourtant hein, aux États et aux citoyens. Donc ça a été un point d'appui parce que c'est le quotidien effectivement des citoyens, des Français, et parce que malheureusement c'est le dernier drame aussi qui a marqué nos esprits. Mais on s'est fondé sur d'autres drames comme Bhopal, comme l'Erika, comme le golfe du Mexique pour montrer que cette irresponsabilité, elle est le fait d'une quête de profit qui n'est pas compatible avec l'intérêt général. Et c'est à la puissance publique de contraindre les acteurs économiques à participer à l'intérêt général. Et pour ça, il faut en passer par la loi. On aurait aimé s'en passer. L'actualité nous montre tous les jours que ce n'est pas possible.
Maïlys Souk, un mot de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission. Ce sont véritablement les scandales qui font le plus, malheureusement, avancer la cause.
Oui, le rapport sur le Rana Plaza l'a montré. Et je pense, pour finir sur une note d'espoir concernant les pratiques d'achat et qui est corrélée au niveau des salaires, il y a des grands syndicats internationaux, notamment le syndicat international de l'industrie, qui développe une initiative avec le secteur privé qui s'appelle ACT et qui vise en fait à construire des coalitions entre les syndicats et les donneurs d'ordre dans les pays de sourcing pour arriver à négocier dans les pays la mise en place de dispositifs tripartites de fixation des salaires. Et c'est corrélé à la liberté syndicale. Donc, on a des leviers, il reste à travailler pour les rendre plus efficaces.
Nella Jaltouni, d'un mot.
Oui, au-delà de la législation, enfin, il y a un levier qu'on a un peu évoqué, c'est celui des citoyens, la mobilisation citoyenne. Les acteurs économiques évoluent aussi parce que les citoyens les confrontent à leur refus d'assumer ces atteintes environnementales et sociales. Donc, la prise de conscience citoyenne et politique, elle conduit aussi en changement et appuie cette organisation concernée pour de la législation. Donc il faut aussi continuer à exprimer en tant que citoyen le refus de cette impunité qui nous impacte tous.
Mais parallèlement, vous parlez de changer de modèle, et face à cela, on voit que la consommation mondiale de vêtements devrait croître de 60% d'ici à 2030, et c'est pas l'arrivée d'Amazon sur le marché qui risque de changer la donne. Donc on voit qu'on va vers, malheureusement on a le sentiment qu'on va vers une fast fashion qui peut être encore plus rapide.
Oui, alors sur la question de la mode, les chocs là que peuvent constituer les images de vêtements brûlés, d'invendus parallèlement au creusement des inégalités sont quand même de temps en temps des déclencheurs, et on voit, nous on n'a jamais été autant questionnés depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire même pas depuis juste après le Rana Plaza, mais les questionnements des citoyens se font de plus en plus croissantes. Il y a aussi une nécessité d'éducation, et là les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité à expliquer. Et puis je pense qu'il y a un enjeu central qui est celui qu'on a un peu évoqué ces temps-ci, c'est les lobbies, bien entendu, le lobbying, la communication et les moyens démesurés qu'ont les multinationales pour mettre en valeur leur modèle. Elles sont extrêmement présentes, pas seulement dans les couloirs privés, hein, mais d'une manière globale aussi dans la société, au regard des organisations qui défendent l'intérêt général. Et si on arrive aussi à réguler ce message, je pense qu'on fera un pas en avant.
Corinne Verchaptal, un mot de conclusion peut-être sur ces lobbies ou peut-être sur le poids économique que représente l'industrie de la mode. Donc, c'est quand même 1,7% du PIB, donc c'est avant l'aéronautique, avant l'automobile. On a le sentiment
d'une puissance difficile de la mode et plus largement sur la manière dont elle est restructurée, c'est-à-dire dans ses chaînes globales de valeur qui, elles, tout secteur confondu, représente 80% des échanges mondiaux. Donc on a quand même et un emploi sur 5. Donc on est quand même dans des modèles très présents qui sont en train de se consolider et qui, malgré tous les efforts qu'on fait, et d'ailleurs c'est là que ça rend ces efforts encore plus louables et les petites réussites encore plus appréciables, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de très complexe parce qu'on est dans des filières qui sont en recomposition permanente autour de centres névralgiques de pouvoir qui structurent l'économie. Mouad El Mouloud parlait de mondialisation itinérante, c'est ça. Donc les périmètres sont extrêmement en recomposition permanente, ce qui empêche la régulation aussi.
Il est 14h52 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la Montagne d'Or.
Absolument, mais ne vous laissez pas abuser par ce nom merveilleux qui semble tout droit sorti d'une féerie de Thomas Mann ou de Charles Perrault. La Montagne d'Or renvoie en réalité à un gigantesque projet industriel d'extraction de minerais au cœur de la forêt amazonienne. Projet qui suscite en Guyane comme en métropole de violentes oppositions entre protecteurs de l'environnement et défenseurs revendiqués de l'emploi. Il faut dire que l'exploitation d'une mine d'or pose un certain nombre de problèmes écologiques, à commencer par l'usage de cyanure pour rendre l'or soluble. Ce sont ainsi des quantités phénoménales de boue chargées d'or et de cyanure qui sont stockées dans des bassins de rétention en attendant la récolte des pépites merveilleuses. En cas de débordement ou même de rupture des digues à cause des pluies diluviennes notamment, le cyanure se déverse directement dans la nature. Et le problème, c'est que ce type d'accident est en réalité assez fréquent. On se rappelle ainsi de la rupture en 2000 du barrage de Baia Mare en Roumanie, qui avait déversé ses eaux polluées jusque dans le Danube à des centaines de kilomètres de là. Et ce sont depuis plus de 25 digues qui ont cédé à travers le monde.
Or, la mine se trouve située entre deux réserves naturelles protégées pour leur diversité exceptionnelle.
Oui, on peut donc seulement imaginer les conséquences terrifiantes qu'aurait une pareille catastrophe sur un site tel que la Montagne d'Or. Mais au-delà des problématiques de pollution, on sait que les mines d'or sont également une source très importante de déforestation. Des chercheurs de l'université de Porto Rico avaient ainsi montré qu'au lendemain de la crise de 2008, qui avait vu s'envoler la demande d'or considérée comme une valeur refuge, la déforestation s'était elle aussi accélérée dans une même ampleur. Le projet guyanais nécessiterait ainsi de déboiser près de 600 hectares de forêts primaires pour construire le site et la ligne à haute tension pour alimenter la mine en électricité. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 820 terrains de football en forêt, détruites pour extraire environ 85 tonnes d'or sur les 12 années du projet.
On a donc vu se multiplier des oppositions à ce projet.
Oui, des associations locales de protection de l'environnement aux autorités coutumières amérindiennes qui ont voté unanimement contre, jusqu'à l'ancien ministre de l'Environnement farouchement opposé à ce qu'il considère comme un désastre écologique en puissance. Mais la démission de Nicolas Hulot a, semble-t-il, remis le sujet sur la table, son successeur au ministère de l'écologie étant bien plus favorable à ce dossier. Le président de la République lui-même s'est déclaré à plusieurs reprises favorable au projet, arguant de la nécessité de développer économiquement la région d'outre-mer.
Un argument compréhensible lorsque l'on connaît le chômage endémique qui touche la Guyane.
Effectivement, c'est ainsi près de 22% de la population guyanaise qui se trouve actuellement au chômage, un chiffre qui atteint 45% lorsque l'on s'intéresse aux jeunes. Et le consortium russo-canadien a bien compris qu'il était de son intérêt de miser sur ce sujet, en promettant pas moins de 750 emplois directs et 3000 emplois induits. En réalité, ce n'est pas la première fois qu'on fait primer les intérêts économiques de court terme en brandissant l'argument de la sauvegarde de l'emploi. On se rappelle ainsi de Manuel Valls, alors Premier ministre, donnant le feu vert au déversement de boue rouge dans la Méditerranée, sous prétexte de préserver l'activité économique. On se rappelle également Nicole Bric, évincée du ministère de l'écologie, pour s'être opposée au permis de forage du pétrolier Shell, toujours en Guyane. Le problème, c'est qu'on nous présente toujours la même alternative, court terme économique contre long terme écologique, emploi contre environnement. Cette opposition artificielle est en réalité un prêt-à-penser qui renvoie chacun à une position d'affrontement, interdisant de réfléchir à de nouveaux modèles économiques qui permettraient de concilier développement local et protection de l'environnement.
The way to get rid of tension is to do just the opposite of all the things that cause it.
On se quitte sur Modern Slave de Chinese Man avec R.A. The Rugged Man. Merci beaucoup Naila Jaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette, Corinne Verger-Chaptal, professeure de gestion à l'UT de Ville-Tanneuse et directrice adjointe du CEPN, Centre d'économie de Paris-Nord, et Maïlys Souk, secrétaire générale du Point de contact national français, le PCN de l'OCDE. Un grand merci à toutes les trois. Demain, on se retrouve à 14h pour une table ronde d'actualité consacrée à la politique économique d'Emmanuel Macron. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
The spiral is upside down. We teach hate over truth. Teach lies over love. They're poisoning our children. They're gonna kill us. Fuck that. Hey yo, this is the end.
of life, the end of days. A bullet to the skull of a friend that betrays. And we murder dead bodies and we overturn graves. Race wars, black versus white, straight versus gays. As Donald Trump and Hillary's cunt get praised. As they reverse the clock, wanna bring back the slaves. Is it land of the free? Is it home of the brave? Wanna censor your flicks like the code of the haze. Keep the poor people poor, keep them broken at bays. Put them in the cage, anyone disobeys. Raise taxes, intimidate the masses. Sanction state rackets, make them fear the black kids. Modern slave masters, keep the sheep slave brain captive. Same insane, shame, blame tactics, remain fascist. Pedophiles with cocaine habits, lock all the world leaders up in straitjackets. Come on.